Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Seb au micro, on va être ensemble pendant une heure, mais tout d'abord, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images de la BD franco-belge, du manga et du comics, et ça directement dans votre cerveau. Seb au micro, on va être ensemble pendant une heure, et j'espère que tout va bien se passer. Je ne suis pas tout seul puisque je suis en compagnie de Bruno. Ça va Bruno ?
Ça va bien Sébastien, merci.
Et je suis également en compagnie de toutes les personnes qui veulent nous rejoindre directement en direct sur Facebook. Vous pourrez voir les albums qu'on pourra proposer tout à l'heure directement dans la petite caméra. N'hésitez pas à interagir également sur le chat de la radio ou directement dans le chat de YouTube. Voilà. Ah ben le chat il est parti se promener. Vive la technique. Bravo, bravo. Enfin bref. J'espère que ça va tout le monde. Ça va toi, Bruno, du coup ?
Bah écoute, pas trop mal. On a beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Vu la pile de BD qu'il y a sur la table.
C'est clair, on a beaucoup de choses à dire. Et on n'aura pas forcément suffisamment de temps, ce qui est mon grand regret à chaque fois. Mais on va essayer de faire au mieux pour que tout le monde puisse en profiter au maximum. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Certainement un truc très intelligent que j'ai oublié.
Comme d'habitude.
C'est pas grave, on va commencer par les news. Les news qui nous ont été concoctées par Florence, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous ce soir. Alors, les news. Déjà, on va commencer avec 2026, c'est l'année de la BD finlandaise. Alors, à l'occasion de la conférence de presse du Festival BD à Bastia, qui a été organisée le 26 janvier dernier, l'année de la bande dessinée finlandaise en France, sous le mot Sarjakuva, a été officiellement lancée. Alors, j'espère que je le prononce bien, désolé à tous les Finlandais que j'ai offensés. Et vous pouvez d'ailleurs découvrir le magnifique logo officiel qui a été conçu à cet effet en saisissant tout simplement Sarjakuva sur le net, et comme ça se prononce. Durant toute cette année 2026, la bande dessinée contemporaine finlandaise sera donc mise à l'honneur à travers une programmation nationale en partenariat avec plusieurs festivals et institutions culturelles majeures. L'objectif, c'est de faire découvrir auprès d'un large public une création artistique riche et passionnante, de créer des moments d'échange entre les artistes et le public et de renforcer les liens culturels entre la France et la Finlande. Tu connaissais beaucoup de BD finlandaises
Justement, c'est ce que qu'elle a proposé, c'est ce que je suis en train de chercher, mais je suis pas sûr qu'il soit finlandais. Une BD rock, bien sûr, mais je sais qu'il est scandinave.
Perkeros.
Non, Perkeros, c'est... Ah oui, t'as raison, Perkeros, c'est finlandais.
Perkeros, c'est finlandais.
Aonen, le dessinateur.
Ouais.
Alors ça, Perkeros, je pourrais refaire la... J'ai fait une chronique dans rockebd.com.
Et puis,
oui, c'est absolument génial.
Il y avait Stand Still, Stay Silent, qui me semble est finlandais aussi.
Peut-être bien.
Scandinave, en tout cas.
Non, il est celui dont, auquel je pensais, il est danois. Mais effectivement, Perkeros, et puis Belzebubs aussi. C'est de la BD finlandaise sur le métal. Et c'est vraiment, vraiment, Perkeros, c'est un super album.
Ouais. C'est terrible.
Ouais.
On continue avec le prix BD France Télévisions Villa Médicis qui a été attribué à Elena Usdin et Bonny pour leur roman graphique Détroit Roma. C'est un roman qui raconte l'histoire de deux jeunes filles qui décident de relier à bord d'une vieille voiture leur ville natale, Détroit, dans le Michigan, à Roma, en Géorgie. Tout au long du trajet, elles vont se raconter et se découvrir. Le jury présidé par Augustin Trapenard s'est passionné pour cette œuvre haute en couleurs et riche par son histoire émouvante. Un prix amplement mérité. L'agenda des événements, on a trois événements à noter dans les jours qui viennent pour ceux qui se trouveraient aux alentours. Le 14 et 15 février, ce sera les journées de la BD à Séris dans la Seine-et-Marne. Le 22 février, ce sera le festival BD des bulles et des textes à Castelnaudary dans l'Aude. Et les 21 et 22 février, vous pourrez aller au festival Rotary BD à Saint-Tropez. C'est la première édition. Une autre information, est-ce que tu as vu passer la polémique autour de l'affiche de Trolls et Légendes, Bruno ?
Eh bien, j'ai vaguement vu ça, mais je dois dire que j'ai juste lu le titre de l'article que j'ai vu, je ne sais plus où, sur le net, et puis un petit pitch, et je me suis dit une polémique de plus, mais bon, allons-y.
Allons-y. Alors effectivement, c'est le festival Trolls et Légendes qui se tient en avril 2026 à Mons, en Belgique. Il a présenté son affiche et elle a très vite fait parler d'elle. Elle a été réalisée par Monsieur Laudron. Et elle présente Eleina, une succube. C'est le démon féminin qui séduit les hommes et abuse d'eux durant leur sommeil, hein, pour ceux qui ne connaissent pas les succubes. Et le personnage a été représenté très légèrement vêtu, ce qui n'est pas forcément été du goût de tout le monde. Les critiques négatives qui se sont aussitôt multipliées sur les réseaux sociaux ont obligé les organisateurs à retirer l'affiche quelque temps afin d'apaiser les tensions et de préparer une réponse constructive. Et leur message est clair, l'intention de présenter cette affiche n'est aucunement de provoquer ou de faire le buzz, elle s'inscrit dans un imaginaire fantasy et dark, où serait beaucoup représenté ce type de personnage, hein, soyons honnêtes, et il s'agit également d'une sorte d'hommage rendu à François-Marcel Afroideval, qui est le co-créateur et scénariste des Chroniques de la Lune Noire, où interagit le personnage de Eliana. Après avoir remis l'affiche en ligne, les organisateurs tiennent à préciser que les commentaires haineux n'aboutissent aucunement à une action efficace et que ces nombreux retours ont été entendus. Oui, c'est effectivement celle que tu as. Ont été entendus. Ceux-ci serviront à nourrir les réflexions pour les prochaines éditions, le festival se voulant avant tout inclusif et respectueux de tous les publics.
Oui, enfin, c'est pas non plus une image érotique.
Non.
Vraiment, là, c'est, enfin, oui, là, c'est ce qu'on peut appeler de la licence poétique, mais enfin, je vois rien de. Oui, ça correspond à une héroïne, effectivement.
C'est tout à fait dans la ligne de ce que fait le droit.
Je trouve pas ça vulgaire, voilà. Bon, après, chacun a son opinion là-dessus, effectivement.
Savoir que ça casse un petit peu les traditionnelles affiches qu'ils pouvaient avoir, qui étaient un petit peu plus dans l'esprit fantasy que celles qu'on peut voir là maintenant. Bon, ouais. Après, voilà. Il y a d'autres petits éléments. Je vous laisserai aller faire un tour sur les réseaux sociaux si vous voulez vous jeter dans la fosse pour voir les avis divers et variés que ceux de Monsieur Ledroit qui a utilisé son droit de réponse, que ceux de beaucoup d'artistes qui ont aussi permis d'alimenter, et il y a pas mal de réflexions qui sont à la fois bonnes, mauvaises. Après, chacun se fera son avis. Ce n'est plus à moi de juger. Voilà, c'est tout pour les news. Je remercie encore Florence de les avoir écrites, ce qui est très très cool. Parce que voilà. Et puis bon, un petit bisou à elle parce qu'elle est en train de travailler et elle ne nous entend pas. On avait commencé une rétrospective de tes BD de l'année dernière, 2025, des BD rock. Ouais. On va avoir, allez, je te donne 6 minutes pour en faire. Autant que tu peux, et puis on essaiera de finir juste après.
Ça marche, on va essayer. Donc, tu peux les montrer.
Alors, est-ce que tu peux juste me rapprocher la pile ?
Alors, je vais te rapprocher la pile. Je te rapproche la pile. Hop, elle est dans l'orne. Il y a eu encore pas mal de choses qui sont sorties. Donc, la dernière fois, j'avais dû en présenter peut-être une petite dizaine. Donc, voilà la suite. Et on commence tout de suite par la fin des biopics, parce qu'il faut savoir qu'en gros, en BD rock, il y a à peu près la moitié des BD qui sortent qui sont des biopics, hein, de groupes, d'artistes. Donc là, il y a Reckless Life sur la carrière des Guns N' Roses, hein. Donc un comics, hein, scénarisé par Jim McCarthy, qui a également fait un biopic sur Metallica et sur Bob Marley. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Graphique comics noir et blanc, très efficace. Après, bon, les fans des Guns, ils vont pas forcément découvrir énormément de choses. Bon, voilà. Donc, c'est un biopic sur les Guns, Sex, Drug and Rock'n'Roll, du début à la fin. C'est hautement recommandable pour tout savoir l'essentiel sur ce groupe mythique du hard rock des années 90-2000, notamment 90 aux États-Unis.
Mais pas forcément tout public, si?
Ça va. Oui, non, je pense que c'est. Oui, alors après, non, c'est pas forcément tout public parce que, bon, forcément, on y parle beaucoup de dérives.
De drogue et de rock'n'roll.
Voilà, de drogue, de rock'n'roll. Voilà, donc, oui, c'est plus pour adultes, on va dire, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus licencieux. Hein. Donc, voilà. Autre biopic, c'est un biopic sur Jim Morrison qui est en fait sorti chez les Ronds dans l'eau, mais qui avant était sorti, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années. Alors c'est pour ça que c'est assez remarquable parce que c'est un biopic sur les Doors. C'est Jeff au scénario et
Bertocci
au dessin. Et c'était déjà paru il y a 10 ans, je crois, chez 6 pieds sous terre, et ça s'appelait Jim Morrison, prophète du chaos. Et là, c'est juste Jim Morrison, mais c'est exactement la même BD. Mais bon, c'est un parti pris. Bon, c'est le style du dessinateur qui est très personnel. Et puis c'est une rétrospective effectivement sur la vie et notamment la fin de Jim Morrison, mythique membre du mythique club des 27. Donc les rockers morts à 27 ans et donc voilà, une fois de plus un nouveau biopic mais qui vaut le détour par le parti pris graphique hein, notamment parce que c'est vraiment très original ce que fait Bertocci. Voilà,
c'est très cool en termes de graphisme, c'est très sympa, il y a un côté très onirique un peu, je trouve.
Exactement, et je pense que ça va plutôt bien avec les textes de Jim Morrison, du coup.
J'imagine.
Ouais.
Un peu plus.
Ça, c'est juste pour dire que ça existe. Bon, Metal Hurlant sort pas mal de hors-séries thématiques l'année dernière. Il en a sorti un sur le Hellfest, donc c'est un recueil de petites d'histoires courtes qui illustrent un peu tous les thèmes du métal. Alors le problème des collectifs comme ça, c'est qu'il y a un peu à boire et à manger. Bon, évidemment, c'est un bel hommage au métal et au Hellfest hein. Donc tout n'est pas à mon goût très 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 réussi. Il y a des moments de bravoure, il y a des choses qui sont un peu plus dispensables, mais bon, c'est sympa quand même d'avoir une énième BD sur le Hellfest hein, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais celle-ci pas mal. Mais enfin, c'est la limite de l'exercice d'un collectif avec des petites histoires où chacun s'exprime sur ce qui lui plaît dans le métal, sur des groupes qui s'amuse à carrément aller dans des délires. À noter parmi les auteurs Olivier Martin, notre camarade régional de l'étape, Olivier Martin, qui et j'en reparlerai hein, ici, qui fait un blog sur les dessins de croquis de concert rock and roll. Et voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc il est dans cette il fait partie des auteurs qu'on contribue à ce collectif.
Il faudrait juste qu'on l'invite et puis qu'il vienne en parler directement.
Mais
ici
carrément, ça pourrait être pas mal. Ouais, je vais lui proposer. Ouais, tout à fait.
Next.
Un récit. Alors là, du coup, on arrête les biopics, on part dans la fiction. Un récit sur qui s'appelle The Mops et qui est un récit sur un groupe de rock alternatif, on va dire, de maintenant, dans la région de Toulouse. Et c'est l'histoire d'un groupe qui se crée de façon tout à fait fortuite, on va dire, entre trois personnes, et puis commence à avoir un petit succès local, et puis on voit toutes les difficultés d'arriver à faire du rock et de façon générale de la musique en France et à vivre de ça quand on est amateur et qu'on a l'ambition de devenir un vrai groupe professionnel. Donc c'est une vraie tranche de vie, on sent qu'il y a du vécu et c'est un récit qui m'a bien plu. C'est avec un côté un peu dessin très très lâché, très dépouillé, un peu à la fanzine, mais c'est très efficace, donc c'est une histoire vraiment sympa.
Cool. Allez, la dernière, et puis on se fera une pause musicale juste après.
Ouais, donc Défi Normal, alors ça a été chroniqué sur Quotidien, notamment, si je l'avais vu, c'est là que j'en avais entendu parler, donc c'est une histoire de fille fan d'un rockstar et qui ont l'occasion de le côtoyer et notamment pour l'une d'elles de le côtoyer de très très près, si vous voyez ce que je veux dire. Et moi j'ai été un peu déçu quand même, parce que j'ai trouvé l'intrigue assez convenue. Je vais pas tout dévoiler, mais je tombe amoureux, je suis une groupie en fait. Mon idole me fait l'honneur de me mettre dans son lit, et puis en fait je suis déçu. Et comme je suis déçu, je vais en tirer les conséquences.
Et puis on s'aperçoit
que voilà, et puis on s'aperçoit que la rockstar, elle est pas si cool que ça, et qu'en fait c'est un gros con. Donc voilà, tout ça c'est assez classique, pas très original. Et j'ai pas trouvé que ça méritait le petit ramdam qui a été fait là-dessus. Mais ce n'est que mon avis subjectif, enfin, à savoir que ça existe malgré tout.
Ok, on finira les quelques albums qui restent après la pub et puis après la pause musicale.
Ouais, on a des pubs.
Et puis l'interview qu'on va réaliser dans quelques instants. Je te propose une petite chanson de Sadie Sink, l'actrice de Stranger Things, qui a fait une chanson qui s'appelle Rumbling Down the Road, qui est tout à fait sympa. Donc voilà, pour ces...
Je m'excuse, rappelle-moi, elle joue quel personnage?
Elle joue Maxine.
Ah, d'accord. Okay.
Donc c'est plutôt sympa, et moi je trouve ça cool. Allez, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
It's time to find the life waiting for me. I will comfort the disturbed and disturb the comfortable. On these six strings I'll sing my destiny. As I ramble like my father, just like his father's father. And I'll walk this world and wander. I ramble like my daddy down this road. Oh Lord, I'm rambling like my daddy down this road. Like a Galloway I roam, and the world is now my home. With a song every stranger is a friend, and the earth becomes my pillow. Just me and my weeping Lilla will play together till the very end. As I ramble like my father, just like his father's father, and I'll walk this world in wonder. I'll be rambling like my daddy down the road. I'll ramble like my daddy down this road.
Just wanna tell you. 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est Seb au micro et je ne suis pas tout seul. Je suis toujours avec Bruno, mais je suis aussi en compagnie de Anne et Min Truong. Et on va parler de The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead et du Petit Chaperon Rouge tout court. Bonsoir Anne et Min.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous entends pas dans mon casque. C'est normal, parce que j'avais baissé mon son. Petit souci technique. Je suis ravi de vous avoir dans l'émission. On va parler d'une double sortie. Deux albums complètement différents l'un de l'autre. Un plutôt pour les plus petits et un peu plus pour les plus grands. Les deux sortent chez Uppercut. Et les deux, si je ne me trompe pas, ont été financés en ligne via un full lancement, si j'utilise le terme français. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça, oui, on a fait un financement participatif donc qui s'est terminé en octobre dernier avec la livraison des contributeurs et les deux livres sont sortis en librairie le 23 janvier.
Avant qu'on parle des albums en eux-mêmes, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Comment vous en êtes venu au dessin déjà ?
Alors, Anne et moi, on s'est rencontrés grâce au manga,
et on s'est même mariés.
Génial.
Voilà, on est un couple dans la vie comme dans le manga. Et on s'est vraiment rencontrés grâce à cette passion commune. Et c'est justement grâce à cette rencontre que on s'est reconverti et qu'on s'est lancé dans le manga. Parce qu'on était deux. Parce que le manga, c'est dur. Seul, on ne se serait sûrement pas lancé. Mais à deux, on s'est senti plus fort et on s'est lancé dans l'aventure.
Vous êtes fait un studio à la fois familial et travailleur, quoi.
C'est ça, oui.
comment vous avez décidé de faire un manga ou comment vous êtes dit un jour j'ai envie d'écrire une histoire et de la publier?
Alors c'est un rêve qui est un rêve de gosse en fait. Nous on est de la génération Club Dorothée, donc c'est vrai que quand on était ado et petit on regardait le Club Dorothée, et puis plus tard on a su que les animés qu'on regardait c'était des mangas. Et quand on était en études, on s'est dit, moi et Nine, on avait tous les deux comme rêve de devenir mangaka. Sauf qu'on était plutôt bons à l'école, donc nos parents n'ont pas vraiment voulu. Et puis les années ont passé, on a eu d'autres métiers pour subvenir à nos besoins. Et puis arrivé à la quarantaine, on a commencé à se poser la question.
On s'est lancé parce que à notre époque, le manga était plutôt mal vu. Et ces dernières années, le manga est plutôt stylé, comme disent les jeunes. Et on s'était dit, c'était le moment de se lancer.
Bah, voilà, donc on réalise un rêve de gosse.
Et ben, c'est un beau rêve de gosse. Du coup, l'apprentissage du dessin en autodidacte ou vous avez suivi un parcours particulier?
Non, complètement autodidacte, que ce soit Mine ou moi. On a commencé par recopier du Dragon Ball dans notre chambre hein, et puis après alors on a de la chance parce qu'aujourd'hui avec YouTube, avec Internet, on a facilement accès à des tutos, donc on a progressé assez vite grâce à ça. Mais c'est vrai qu'au départ c'est quelque chose qu'on faisait quand on était tout petit, on recopiait ce qu'on aimait.
Akira Toriyama en tête de proue, mais est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vous ont inspiré?
Alors oui, pour ma part beaucoup Dragon Ball, mais ensuite je suis tombé sur le manga Gun de Yukito Kishiro.
Mon manga préféré. Hein.
c'est ma bible. Donc mon but ultime, c'est de faire mon propre Gun plus tard.
j'ai hâte de voir ça.
Et moi, mon mangaka préféré, c'est Kubo pour Bleach. Bon, après, c'est vrai que quand on a décidé de se partager le dessin, moi je me suis mis plutôt au décor. Il n'y a pas trop de décors dans Bleach, donc j'ai dû chercher d'autres références. En ce moment, je suis très branchée à Asano.
Ok, effectivement. Et du coup, le projet en lui-même, à quel moment l'idée farfelue de faire à la fois un livre pour les plus jeunes et un pour les moins jeunes, en même temps, est arrivée?
Alors, en fait, tout est parti de... Alors, on a deux filles. On a Yui, une petite de 6 ans,
okay.
Et on a toujours voulu lui faire un livre. Et comme elle est passionnée de loups, et à la fois apeurée d'ailleurs, on s'est dit on va lui faire Le Petit Chaperon Rouge à notre sauce, en version manga, en reprenant la version des frères Grimm, pour pas déstabiliser les petits et les parents. Et on a aussi une grande fille qui a 22 ans, et on s'est dit pourquoi s'arrêter là? On va lui faire sa version pour la grande. Et pour elle, on s'est dit, on va faire une revisite, une réécriture, en version manga cette fois.
Pas de jalouse.
C'est ça, pas de jalouse, une version un peu plus...
un peu plus bougée.
Ouais, un peu plus bougée, ouais. Et comment vous êtes répartis, en fait, le dessin? Vous dessinez tous les deux, donc c'est la même personne qui s'occupait des décors sur les deux albums, ou c'est...
Oui, en fait, tout ce qui est scénario, découpage, texte, dans les bulles, on les fait à deux. Et après, c'est vraiment au moment du dessin où on se partage. Mine fait les personnages et moi, je fais les décors et les couleurs.
Ok. Et pour la partie écriture du texte en lui-même, comment vous avez travaillé à quatre mains pour retravailler ces histoires qui sont quand même, enfin, au moins l'histoire classique est archi connue?
Alors, à la base, on est parti, justement, comme elle est archi connue, on voulait savoir d'où on partait. Donc on a cherché vraiment les origines du Petit Chaperon Rouge. On est tombé sur la version de Perrault. On s'est dit c'est pas du tout adapté pour les enfants. C'est pour ça que d'ailleurs elle est restée dans un coin de notre tête et qu'on a finalement fait The Fucking Petit Chaperon Rouge AVZ en s'inspirant de la version de Perrault. Et pour la version enfant, on est parti de la version des frères Grimm. Alors vraiment pour la version enfant, on n'a pas trop changé les textes qu'on a trouvés. On les a un petit peu adaptés, mais on est resté assez fidèles. En revanche, bah, c'est vrai que pour la version The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead, là, c'est plus un ping-pong entre nous, en fait.
Oui, il y a quelques différences avec le conte d'origine, quand même.
Oui. Légère.
Légère. Comment vous travaillez en... C'est plutôt en traditionnel, en numérique? Peut-être un mix des deux?
Alors, on est en traditionnel. Alors, ça veut dire qu'on dessine sur feuille, crayon, gomme. Et c'est vraiment au moment de l'ancrage, donc quand on vient repasser en noir pour la mise au propre, où là, on a des techniques qui diffèrent, Anne et moi.
Moi, je suis au liner. Donc, vraiment, tous les décors sont faits au liner, avec plus ou moins épais en fonction de ce que je veux avoir comme rendu.
Donc, le liner, hein, ce sont des feutres fins. Et pour ma part, je suis j'ancre à la plume. Donc, avec de l'encre de Chine, je trempe ma plume. Et c'est un peu le même principe que les stylos plumes, comme quand on avait à l'école. C'est-à-dire que lorsqu'on appuie, on a un trait plus épais. Et quand on n'appuie pas, on a un trait fin. Ce qui fait que sur un même prix, en fait, je peux faire fin, épais, et c'est absolument génial.
Il y a des variations qui sont facilement faisables, ouais, avec ça.
Oui.
Il y a l'utilisation de trame ou pas du tout? Ou tout vraiment, tout est fait... Je vois des fois le travail sur certains cheveux, je me dis c'est peut-être plus simple d'utiliser un peu de trame, pas du tout?
Alors, pour le petit chaperon rouge, on a fait le choix de ne pas du tout utiliser de trame. Tout est fait à la hachure. C'était un choix qu'on avait... Enfin, on avait envie d'essayer l'exercice. On n'a pas été déçus.
Bon, alors, c'était un challenge qu'on s'était imposé.
Ça
pour
rend,
justement
ça rend très bien,
travailler, hein. Travailler, se forcer à travailler l'équilibre noir-blanc.
Oui.
Ok. Le travail en couleur, et alors, sur la version Petit Chaperon Rouge, on est sur un travail full couleur. Sur le Fucking Petit Chaperon Rouge aux ZED, on est en noir et blanc. Il y a une grosse difficulté à faire de la couleur et du noir et blanc ou pas sur des mangas comme ça?
Alors, c'est vrai que nous, on a fait pas mal de noir et blanc jusque-là. La couleur, c'était un vrai défi. Parce que moi, à part faire quelques couvertures en couleur et puis quelques illustrations, j'avais jamais fait réaliser un album entier en couleur. Alors, pour celui-ci, faute de temps, parce qu'on a fait les deux livres en même temps, hein, faut le voir, j'ai fait la couleur du livre enfant à l'aquarelle uniquement dans des camailleux de sépia pour avoir les ombrages vraiment en effet aquarelle. Et ensuite, je suis venue rajouter mes couleurs au digital sur chaque zone parce que j'avais pas le temps de faire full aquarelle.
Ok. Ok. Bah, ça rend super bien. Enfin, je sais pas si vous êtes déjà satisfait du résultat, mais en tout cas...
Alors, oui, je suis satisfaite du résultat, mais j'aimerais bien pousser plus loin pour faire full aquarelle sur le prochain, si on en fait un prochain.
Ok. Il y a un format à l'italienne, c'est plutôt pour coller au livre pour enfants, c'est plus pratique peut-être?
Oui, alors c'est vrai que on voulait qu'ils aient la même taille, tous les deux. Donc, quand on les met l'un sur l'autre, ils ont
exact.
La même taille, c'est juste que la version enfant est à l'italienne. Et on voyait avec notre fille, en fait, c'est à l'usage, hein, l'histoire du soir, souvent, elle aime bien avoir des petits livres, elle aime pas trop avoir des grands livres, et comme c'était son livre à elle, on s'est adapté à ses choix.
Autant le faire, oui, de façon à ce que ce soit adapté.
Voilà.
Moi, j'aime bien toujours poser des questions sur la partie financement participatif. Quelles sont les difficultés que vous avez le plus trouvées à ce format-là? Type de financement? Ou peut-être le confort, hein.
C'est compliqué, hein, financement participatif, parce qu'il y a du travail avant, pendant et après. C'est-à-dire qu'avant, il y avait tout un travail de visuel qu'il a fallu faire. Mais aussi, on a fait une bande-annonce pour les deux livres, et notamment une bande-annonce pour le manga The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead, où on a fait de l'animation et on a fait appel à des comédiens de doublage. Donc, avec un enregistrement dans un studio à Paris. On a fait un enregistrement avec Brigitte Lecordier, Donald Renew et Crazy Bomb.
Et Louis Lecordier.
Et Louis Lecordier. Et ça a demandé beaucoup, beaucoup de travail déjà en amont. Ensuite, pendant le financement participatif, il y a eu tout un travail aussi de communication avec les contributeurs, les futurs contributeurs.
Des concours.
Des concours pour garder le financement vivant pendant toute la durée de la campagne. Et ensuite, après, où là, il y a eu toutes les contreparties, et notamment, on a fait environ un peu plus de 1000 dédicaces pour les contributeurs. Donc ça a été un gros travail en fait du début à la fin.
Ah oui, j'imagine que là c'est se donner une masse de travail, mais il y a une satisfaction qui est là derrière quoi.
Oui, ah oui, bien sûr. Oui.
Vous avez déjà des retours des contributeurs qui ont reçu leurs albums et qui vous disent OK, je kiffe à fond quoi.
Oui. C'est très encourageant, très satisfaisant. On a eu des retours très rapides et on nous demande d'ailleurs énormément de personnes nous demandent une suite, soit la réussite d'un autre compte. Donc très encourageant.
Oui. Moi je demande les deux. Hein. Je veux les suites et un autre compte. Non, en vrai, ça marche très bien. Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead? Est-ce que c'est difficile d'adapter un conte et de faire quelque chose qui se tient dans sa globalité? Ou est-ce qu'au contraire, ça roulait tout seul?
Alors, c'était nous, ça, on a bien apprécié l'exercice. C'était vraiment... en fait, la revisite, c'est sympa parce qu'on a une petite ligne directrice. Mais en même temps, on peut y aller, on peut se lâcher complètement. Donc vraiment, on avait toujours une corde à laquelle se raccrocher, mais pour autant, on n'a pas été bridé dans notre imagination.
Alors pour la petite histoire, en fait, ce projet-là, à la base, on devait le faire avec un autre éditeur qui a dû abandonner le projet, faute de moyens. Et à la base, le scénario, c'était pas du tout celui-là. C'était un scénario cet éditeur-là était en faillite, en fait. C'était pas une super ambiance, faut avouer. Et on avait écrit une histoire qui était dans ce ton-là, qui n'était pas très réjouissant. Oh. Et suite à l'abandon de cet éditeur, on a trouvé un autre éditeur qui, lui, nous a demandé de réécrire l'histoire. Et on s'est jeté sur l'occasion pour justement la réécrire et en faire un exutoire, un défouloir. Et on a pu vraiment se lâcher, se faire plaisir. Et voilà, c'est ce qu'on nous dit, c'est on ressent justement ce plaisir à se lâcher complètement dans cette histoire.
Une histoire où il y a beaucoup d'action. Je me rends compte qu'on a beaucoup discuté, mais on n'a pas dit de quoi ça parlait. Alors c'est une relecture du Petit Chaperon Rouge. Mais c'est quoi le synopsis du The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead?
Alors, justement par rapport à notre grande... Emma de 22 ans, c'est on a voulu en fait retracer le passage à la vie adulte, le passage de notre fille. Et c'est-à-dire qu'en fait, le petit chapeau rouge, c'est Lulu, une fille qui a 17-18 ans, qui passe à l'âge adulte, qui part dans la forêt voir Mère Grand avec une tronçonneuse et qui se bat contre des zombies, qui ne cute pas sa mère et à qui il arrive des pépins.
Bon, en réalité, il faut peut-être écouter ses parents.
Voilà, exactement.
À la fin de l'histoire, il y a un petit bonus. Il y a des copains qui sont venus vous faire différents épilogues. Vous avez laissé carte blanche à tout le monde, c'est ça?
Ah oui.
Alors, on a dit carte blanche à tout le monde. Il y en a juste un qui nous a dit « Oh, si vous me laissez carte blanche, je risque de partir un peu loin. Donc, j'aimerais bien que vous validiez avant. » Mais à part ça, non, ils nous ont tous fait des surprises.
Bon, ça, c'est
on a fait complètement confiance là-dessus. Et par chance, ils ont fait des histoires complètement différentes. On avait peur que certaines se recoupent, mais pas du tout. Il y a des tons différents, certaines humoristiques, d'autres complètement badass. Donc ça a fait un panel vraiment diversifié. Et on en est super content. Donc on a laissé carte blanche complète.
Et ben c'est parfait. Moi, j'ai toujours une petite question. Alors, Bruno, est-ce que tu as des questions? N'hésite pas si tu as besoin.
Non, tout a été dit. On parle l'essentiel de ce qu'il faut savoir, je crois.
Moi, j'ai toujours deux choses pour finir. Déjà, où est-ce qu'on peut vous trouver si on veut suivre vos productions ou même simplement vous rencontrer? J'ai l'impression que vous faites quand même pas mal de festivals.
Oui. Là, c'est vrai qu'on a une grosse tournée de dédicaces qui commence. Alors, sur nos réseaux, on essaye de communiquer par rapport à ça. Donc, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur Instagram. C'est là où on est le plus actif.
Donc oui, on communique sur Instagram, on a à savoir qu'on fait 2 à 4 événements par mois, que ce soit en librairie ou en festival. On tourne un peu partout en France.
Okay.
Donc voilà, il y a de grandes chances que vous puissiez nous rencontrer quelque part en France.
Après, sinon, on est distribué en librairie. Donc oui. Normalement, votre libraire préféré doit avoir notre livre. Et s'il ne l'a pas, il peut le commander.
Ouais, puis il ne faut pas hésiter, s'il ne l'a pas, à le harceler pour qu'il puisse l'avoir à disposition quand même.
Exactement.
Oui, oui. Et voilà, et sur les réseaux, on est surtout actif sur Instagram.
Ok, Instagram. Qu'est-ce qu'on tape pour vous trouver The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead ou
Sur Instagram, c'est
Anne
and Mine.
Avec des tirés du 8, des tirés du bas entre chaque mot.
Ok. Eh ben, je vous taguerai pour pouvoir que les gens vous retrouvent plus facilement. Un dernier petit mot juste avant qu'on se quitte. Si vous deviez, en quelques mots, mais vraiment le mini pitch, inviter les gens à lire vos albums, ce serait comment?
La
question piège. Hein.
Non, mais je dirais feel good.
Ouais, c'est des mangas feel good.
C'est ce qu'on nous dit. On est bien à la fin de la lecture de nos livres et c'est ce qu'on voulait absolument.
Voilà, c'est divertissant.
Ouais.
Eh ben, c'est parfait. Némine, merci beaucoup. On va se quitter en écoutant justement la bande-annonce qui avait été faite. C'est celle qui se trouve sur le site de Bulle de Salon, c'est ça?
Oui, c'est ça, exactement.
Eh ben, je vous la mets tout de suite, comme ça ça va pouvoir donner envie aux auditeurs de chercher vos albums. Je rappelle, ça s'appelle The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead, c'est chez Uppercut, et il y a le Petit Chaperon Rouge en version pour enfants, toujours chez Uppercut. Allez, on se retrouve tout de suite après.
Je mets mes gants. Mon chaperon, je prends ma tronçonneuse et j'arrive. Alors, qui a peur du grand méchant loup?
C'est pas nous.
C'est pas nous.
Mais qui alors?
C'est pas nous.
Non, pas nous. C'est peut-être vous.
Est ouverte.
Et ouais, une superbe bande-annonce pour un album qui est déjà disponible un petit peu partout. On va retourner au rock, mon cher Bruno, tu es motivé.
Allons-y, Alonso,
comme moi je dirais d'ailleurs.
On redescend au fond de la mine. Donc, il en reste quatre albums, dont un. Voilà.
On va le faire en crossover.
Voilà, tout à fait. Donc, l'année dernière est paru le récit de Magali Lehuche qui s'appelle Punkassin. Donc, ça a eu une très bonne couverture médiatique. Ça a été également chroniqué à la télé, dans divers médias. Magali Lehuche, elle avait déjà fait un bouquin en 2021, il me semble, qui s'appelait Nowhere Girl, et qui évoquait sa passion pour les Beatles. Et pendant qu'elle était en train de faire ce bouquin-là, eh bien, il lui était arrivé un sale coup. La vie lui a joué un mauvais tour et elle a eu un cancer du sein.
Pas cool.
Et donc, elle a différentes choses. D'abord, sa force de caractère et puis sa joie de vivre, sa bonne humeur. Enfin, voilà. Puis son entourage ont fait que elle a réussi à surmonter cette épreuve que beaucoup de femmes surmontent aussi. Hein. C'est un cancer qui, entre guillemets, soigne bien, mais c'est quand même très déchirant parce que ça a des impacts sur le corps de la femme et sur ce qui est aussi constitutif en partie de sa féminité. Donc c'est vraiment traumatisant. Et donc elle raconte ça de façon très... Je ne vais pas dire très détaché, parce qu'on sent effectivement c'est du vécu et c'est prenant, mais en même temps c'est pas du tout larmoyant, complaisant, voilà. Donc c'est une belle leçon de vie. Il y a pas mal d'humour. Et alors le rock là-dedans, c'est que en fait parmi les choses qui lui ont permis de tenir le coup, il y avait The Clash. Et donc
cool.
Elle a réécouté beaucoup The Clash et les figures de Strummer, notamment, qui était le leader du groupe, enfin le leader avec Mick Jones aussi, il ne faut pas l'oublier, a fait que donc ça l'a inspiré et ça lui a permis de passer cette étape, quoi. Donc il y a beaucoup de moments d'introspection où elle parle, où elle écoute du clash et ça lui fait du bien, ça lui met un coup de pied aux fesses pour pas se lamenter sur son sort. Donc c'est une, et puis on apprend, mine de rien, on apprend des choses sur le cancer du sein, qui est quand même un cancer malheureusement très répandu, et rien que pour ça, c'est un ouvrage qui vaut le détour.
Perfect. Next.
Alors là, attention, on tape dans le lourd. Je vais pas en parler de trop parce que je vais faire une chronique que je vous présenterai une prochaine fois, sans doute la prochaine fois. C'est Murder Falcon, donc c'est un comics, donc par un auteur qui est absolument fan de métal. Et le pitch tient sur un timbre poste, en fait. Hein. C'est une fois de plus des méchantes bébêtes d'un autre univers qui veulent détruire ou soumettre la Terre, l'humanité. Et pour combattre ces envahisseurs, eh bien, il y a des créatures mythiques qui dont les pouvoirs sont décuplés ou même
par le rock,
par le métal, je dis bien,
oh
par
yeah
le métal, donc avec des musiciens de métal qui lorsqu'ils jouent génèrent des sortes d'ondes qui activent les pouvoirs des créatures qui luttent contre les méchantes bébêtes qui veulent envahir la Terre. Alors c'est dans le style plus c'est gros plus ça passe. C'est absolument énorme, mais je
et puis tu si peux on pas est, dessus
voilà,
maintenant.
Si on est fan de métal, là on est servi.
Wow.
Donc oui et puis ça pète bien. Je vous en reparle une prochaine fois de façon beaucoup plus complète.
Mais j'ai l'impression d'en avoir lu un bout.
Ouais.
Mais pas complet. C'est pas une réédition?
C'était réédité en 2025.
Ah.
C'est pour ça. Mais c'est ça. C'était sorti avant. Ça a été réédité chez Delcourt avec une nouvelle couve qui déchire sa race. Voilà. Comme il se doit, vu le style, il fallait pas faire dans la dentelle.
C'est clair.
Et voilà. Donc je vous en reparle.
Ok, on s'en reparle.
Et ce dont je vous reparlerai aussi, que j'évoque là aussi rapidement, c'est Starman. Donc Starman, pour les plus cultivés, forcément tout de suite. Non, ne cherche pas, ne me provoque pas. Starman, c'est David Bowie, forcément la célèbre chanson de David Bowie, et à l'époque où il était Ziggy Stardust, donc une sorte de double de lui. Un double intergalactique, alien, complètement délirant, et qui a fait en grande partie son succès, qui l'a fait vraiment décoller à l'époque, dans les années 70. Richard Kleist, qui est un auteur allemand qui a déjà fait des biopics sur Johnny Cash et sur Nick Cave. Donc là, il réédite l'exercice, mais cette fois-ci avec David Bowie sur sa partie Starman, enfin Ziggy Stardust, et ensuite l'exil à Berlin. Je vous parlerai de tout ça plus longuement une prochaine fois, la prochaine fois si j'ai le temps. Mais voilà, c'est bon. Richard Kleist, c'est vraiment. Je ne sais pas si c'est Richard ou Reinhard.
Reinhard
Kleist, pardon. C'est vraiment un super auteur. Et puis il y en a un dernier, mais alors là je vais simplement
on va le brosser, voilà. Faire une pause musicale et on revient voilà. Après.
Et là c'est un manga, donc du coup on aura balayé tout le spectre. Sons of Vinyl. Si tu peux relire, parce que je vais pas écorcher son nom, l'auteur.
L'auteur, mais il faut qu'ils arrêtent d'écrire tout petit. C'est Ryoshiro Kezuka.
Voilà. Et je crois qu'il va y avoir une chronique qui arrive tout de suite maintenant. Bientôt.
Oui, ça, on se fait à la pause musicale, le temps d'appeler le chroniqueur qui s'est bloqué le dos. On lui fait un petit coucou et puis on se retrouve tout de suite après. On va se faire un coup de musique avec, tu m'avais dit quoi, mon cher Bruno?
Du coup, je n'ai pas retrouvé la référence.
On va se mettre Starman alors.
Et ben, voilà, tiens, allez.
C'est hop. Pas mal ça.
Hop.
Allez, on se fait une petite pause musicale avec Starman de David Bowie, un mec qu'on connaît pas beaucoup. Et puis on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. C'est parti avec Starman si je ne fais pas d'andouillerie. Et je fais des andouilleries plus grosses que moi, c'est pas grave. C'est ça, les joies du direct. Et on est parti. Hop.
Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it. Let the children use it. Let all the children do get.
radio-g.fr.
Et vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb, et on a la chance d'accueillir Fabien en insert téléphonique. Ça va Fabien ?
Salut, salut, ça va bien.
Ça te fait bizarre de nous parler comme ça à distance ?
Ouais, carrément, ça fait très bizarre.
Bon, j'espère que tu souffres pas trop quand même. Et c'est vrai que c'est la seule solution qu'on a trouvée pour que tu puisses nous parler de ce Sounds of Vinyl en collab avec Bruno, quoi, en fait.
Bah, disons
exactement.
Que moi, j'ai modestement, je crois que tu connais, je suis pas sûr que tu connaissais avant que je t'en parle. Donc je t'ai modestement donné envie de le lire, et puis après,
ouais.
Voilà, ça t'a plu.
Et voilà, tout à fait, ouais, j'ai adoré, donc sans trop en dévoiler, j'ai adoré. Donc ouais, j'avais envie d'en faire ma chronique aujourd'hui, ça restait dans le thème en plus, c'est plutôt cool.
Eh ben, vas-y, fallait que je te mette une musique avant, mais j'ai
zappé. C'est pas grave, tant pis, t'inquiète, y a pas de problème. Donc du coup, Sound of Vinyl, donc c'est aux éditions Vega. C'est paru au Japon en 2021, en France en 2025. On est à 3 tomes toujours en cours, aussi bien en France qu'au Japon. Au dessin et au scénario, on a Ryotiro Kezuka. Et donc, on est sur une tranche de vie musicale, on va dire. Donc, du coup, on est sur 8,35€ le tome pour 240 pages.
Ça va, rentable.
Ça va, franchement, ça va. Donc, du coup, alors, oubliez la technique, les platines hors de prix et les noms d'artistes pointus. Ce soir, je voudrais vous parler d'un manga qui ne se lit pas avec les yeux, mais avec le cœur. En 2025, Sounds of Vinyl de Ryotiro Kezuka s'est imposé comme bien plus qu'une œuvre sur la musique. C'est un recueil de vie sur fond musical. Dans ce manga, chaque chapitre est une rencontre. Ce n'est jamais la simple histoire d'un disque qu'on achète, c'est l'histoire d'une émotion qu'on retrouve. Ce vieil homme qui pleure en réécoutant le morceau sur lequel il a dansé avec sa femme disparue, c'est cette jeune fille perdue dans la grande ville qui trouve, au détour d'un sillon, le courage de ne pas abandonner ses rêves. Kezuka possède ce talent rare de capturer l'entre-deux. Ce silence qui précède le début d'une chanson. Ce moment où le monde s'arrête de tourner parce qu'une mélodie nous touche précisément là où ça fait mal ou là où ça fait du bien. Ce qui bouleverse dans Sounds of Vinyl, c'est la tendresse que l'auteur porte à ses personnages. Ce sont tous des gens ordinaires, un peu cabossés par la vie, un peu solitaires. L'émotion passe par des regards, des mains qui tremblent un peu en tenant une pochette cartonnée, ou de longs silences contemplatifs. On est dans la pure tranche de vie, celle qui nous rappelle que même dans la solitude la plus profonde, une chanson peut être une main tendue. Pourquoi ça nous touche autant? Parce que Keizuka dessine la nostalgie sans jamais être ringard. Il nous montre que la musique est un langage universel qui répare les ponts brisés entre les générations. C'est un manga qui fait du bien, une lecture pansement qui nous invite à ralentir, à respirer et à écouter ce que les autres ont à nous dire au-delà des mots. C'est une œuvre d'une humanité foudroyante qui vous laissera sans doute avec une petite boule dans la gorge, mais une chaleur durable dans la poitrine. Et pour porter cette émotion, il fallait un style visuel à la hauteur. Keizuka possède une patte graphique incroyable, presque anachronique. Son trait est organique, charbonneux, très riche en ancrage. On sent physiquement le poids des objets, la texture du papier des pochettes et le grain de la poussière dans les boutiques. Il s'inspire du Gekiga, ses maîtres du manga d'auteur des années 70. Ses noirs sont profonds, ses ombres sont travaillées et chaque planche semble avoir été patinée par le temps. Il sait parfaitement dessiner le silence. Ses cases contemplatives, sur une aiguille qui se pose ou sur un regard qui s'évade, sont de véritables tableaux qui renforcent la mélancolie du récit. Mon petit conseil lecture, lisez-le au calme, loin de votre téléphone. Laissez-vous porter par la mélancolie douce des personnages de Keizuka. C'est un voyage intérieur dont on ressort un peu plus apaisé. Pour ma part, c'est un énorme coup de cœur.
Merci Fabien. Un coup de cœur que moi j'ai partagé, parce que j'avais lu le tome 1 lorsqu'il était sorti. Et alors, j'ai pas lu les tomes 2 et 3. Bruno et Fabien, vous allez peut-être pouvoir me répondre. Il y a un fil rouge, comme dans le tome 1, parce qu'il y avait une sorte de groupe en filigrane derrière.
Il y a les Stags, qui est un groupe, qui est un peu le groupe fil rouge, effectivement, du récit, qu'on retrouve dans divers récits, parce que ce qu'il faut préciser, c'est que effectivement, c'est une suite de récits, donc
c'est une œuvre anthologique.
De nouvelles, voilà. Et effectivement, il y a des personnages récurrents qu'on retrouve dans les différents tomes. Il y a des thématiques effectivement qui reviennent, mais tu en as vraiment très très bien parlé, Fabien. C'est tout à fait ça. J'aurais vraiment pas dit mieux et sans doute moins bien. Oui, c'est une œuvre vraiment attachante et ça fait partie des mangas qui, quand on n'aime pas le manga en bonne occidentale, du front, eh bien, on peut apprécier parce que c'est à ce côté vraiment universel dans le ton, dans le récit aussi, dans le dessin qui est forcément typé manga, mais qui est moins codé, on va dire, que je parle avec mes mots et mes connaissances du sujet, moins typé, on va dire, que notamment le manga qu'on peut connaître par ailleurs dans tous les styles, cela étant dit. Voilà, c'est dans l'approche et dans cette faculté à s'approprier les histoires et les personnages. Je retrouve en sensation de lecture, hein, je suis pas en train de comparer ce que j'ai pu ressentir avec Taniguchi par exemple.
Exactement, tu vois, j'allais justement faire le parallèle avec lui. Très trop fort. Mais en effet, on est dans ce style, on va être dans ce style d'auteur vraiment de tranche de vie qui touche et dont le dessin est très accessible par tout le monde. On va pas être sur des choses ultra dynamiques, avec où il y en a partout, comme on peut avoir sur certains types de mangas. Et donc, c'est ce qui permet une ouverture, je pense, aussi au plus large. Et on est sur un public aussi, je pense, visé, qui est plus adulte. C'est pour ça que je pense qu'il s'inspire aussi beaucoup du Gekiga, qui était un style vraiment plus adulte. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Moi, c'est un style qui me plaît beaucoup. Alors, j'adore tout ce qui est shonen, je suis un grand fan, mais j'adore aussi tout ce qui est tranche de vie. Et là, franchement, j'ai adoré ma lecture. Et pour te répondre, Seb, moi je n'ai pas encore lu le 2 et 3, parce que donc Bruno m'a prêté le premier, et je compte par contre aller m'acheter les 3 tomes, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié.
Du coup, je vais rebondir sur le premier. Le premier, un mot qui me vient à l'esprit quand je repense au premier, c'est transmission. Parce qu'en fait, on a de la transmission intergénérationnelle, interfrontière. On nous parle également de transmission radio, puisqu'il y a une radio pirate au sens propre du terme. Et j'ai trouvé qu'il y avait une richesse vraiment assez phénoménal dans cette volonté de faire passer les choses. Et quand tu dis que c'est plutôt à destination des adultes ou des plus grands, je trouve qu'il y a quand même cette volonté d'inclure aussi un peu les plus jeunes dans les éléments qu'on va leur apporter.
Ah oui, tout à fait. En fait, ça peut être lu par tout âge pour moi. Il n'y a pas de limite. Mais je pense que la cible première, ça va plutôt être les adultes qui vont aller sur ce genre-là. Mais par contre, au contraire, à pas hésiter à faire découvrir ça aux plus jeunes. Parce que clairement, ça peut vraiment plaire. Et ça peut surprendre, parce que c'est pas forcément ce qu'ils ont l'habitude de lire quand on leur parle de manga.
C'est clair. Je me rappelle pas s'il y a une playlist qui avait été constituée là-dessus ou pas.
Je me rappelle plus si on passe ça pas. à la fin, je me rappelle plus. Ce qui est sympa aussi à la fin de chaque histoire, c'est qu'il y a l'auteur a choisi de représenter une pièce donc de la maison, de l'appartement, du magasin de disques en 3D, enfin avec vue plongeante et où on voit tout l'agencement de la pièce, et ça c'est super sympa. C'est le petit touche originale en plus qui permet de s'approprier encore plus l'univers de l'histoire qu'on vient de dire.
Mais que dire de plus ? À part que faut le lire, hein, les gens.
Oui, faut le lire. Franchement, c'est vraiment une petite pépite.
Clairement.
Les couvertures sont magnifiques. Hein, c'est vraiment super.
Ouais, tout à fait.
Ouais, et on se dit qu'un full couleur, ça aurait pas été mal. Parce que les couleurs marchent très très bien sur la couve, en tout cas.
Oui, c'est vrai que ça marche très bien. Après, moi, j'aime bien le côté noir et blanc pour le côté quand il crayonne vraiment certaines pages. Bon, là, je suis pas là, donc on peut pas montrer aux auditeurs. En plus, c'est moi qui ai le tome, mais je viens d'en ouvrir une là où on a, quand c'est dans une cave aménagée entre guillemets, un sous-sol aménagé, où là vraiment on a un crayonné qui est impressionnant, et en noir et blanc, je trouve que ça rend vraiment très très bien.
C'est claque. Eh ben écoute, merci Fabien pour cette super chronique. On va se quitter gentiment en remémorant tout ce dont on a parlé. On va commencer par toi, puis on pourra te libérer. Tu peux nous redonner les références ?
Bien sûr, donc c'est Songs of Vinyl chez Vega. Et du coup, c'est 8,35€ pour 240 pages. Et au dessin et au scénario, on a Ryuichiro Kezuka.
Parfait. On a interviewé également Anne et Mine Truong Delfos pour The Fucking Petit Chaperon Rouge of the Dead chez Hypercut. Et les mêmes auteurs pour Le Petit Chaperon Rouge, toujours, c'est Hypercut. Bruno, c'est à ton tour. On avait parlé rapidement.
En BD Rock, on a parlé de Starman. De Rainer Kleist. On a parlé des Filles Normales. Je crois que j'avais pas donné le nom de l'autrice. C'est pas bien. Manon Debaille, donc aux éditions Sarbacane. C'est chez Casterman, Starman, voilà. Mops, The Mops, c'est aux éditions FLB, BLB, je me rappelle plus, il y a un nom un peu plus long, mais c'est en gros leur logo.
Ouais, c'est un éditeur qui voulait pas qu'on prononce son nom.
Voilà, c'est ça.
Il y avait Murder Falcon,
c'est chez Delcourt,
mais on y reviendra.
On y reviendra parce qu'il faut absolument reparler de cette histoire de fou. Punk Assassin, donc c'est aux éditions Sarbacane, et c'est Magali Leuche.
Collection Charivari, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Ouais. Le Metal Hurlant hors série spécial Hellfest. On a le biopic de Jim Morrison qui est paru au rond dans l'eau avec Jeff et
Bertocci
au dessin. Et puis on a le biopic Reckless Life sur les Guns N' Roses avec Jim McCarthy, scénariste chevronné dans le biopic rock. Et c'est le dessinateur, c'est Marc
Olivent,
attention, pas d'erreur, ce sont bien des ricains qui nous ont concocté ça.
Et c'est publié aux éditions Robinson.
Absolument.
Voilà, bah écoutez, on arrive à la fin hein, quand même, parce qu'on a bien travaillé, je pense. Est-ce que j'ai Porky ? Il est là, Porky. Hop, je sais plus faire. That's all, folks. Voilà, c'est Porky qui l'annonce, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci à Fabien, merci à Bruno. Fabien, remets-toi bien de ton dos, j'espère que ça va aller.
Merci beaucoup, oui, ça va se remettre tranquillement.
Et puis on se retrouve du coup dans 15 jours pour... je sais plus ce que je disais habituellement, pour écouter de nouvelles lectures. Et puis n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent. Bonne soirée à tous.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.